Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 28 octobre. Nous reviendrons sur les derniers chiffres du chômage diffusés hier par Pôle emploi. Ils concernent le troisième trimestre. Les élections législatives des 12 et 19 juin 2022, 5 maires LR de la métropole sont dans les starting blocks. Un important incendie à la résidence sociale Aralis à Vénissieux. Pour soutenir les familles dont les logements ont été particulièrement touchés par les flammes, une cagnotte solidaire a été ouverte sur Litchi. Les anciens footballeurs Sonny Anderson et Sidney Govou ont rechaussé les crampons pour la bonne cause, pour l'heure solidaire, opération lancée chaque année par Habitat et Humanisme. Nous avons rencontré également hier soir le slammeur Guylain N, qui a donné une heure de son temps en jouant avec les mots hier à l'escale solidaire du 3. Pourquoi le groupe Bocuse vend le restaurant West Express à McDo ? Le groupe est sorti hier de sa réserve pour dévoiler les raisons réelles qui l'ont poussé à cette transaction. Rencontre également dans ce quart d'heure lyonnais avec Stéphane Pétrier, le leader du groupe Voyage de Nose, un groupe mythique à Lyon qui fait son retour avec un nouvel album et surtout un concert prévu vendredi au Radio.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les chiffres du chômage diffusés hier par Pôle emploi pour le troisième trimestre sont nettement orientés à la baisse. Au niveau national, moins 5,5%, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes où le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'établit en moyenne sur le trimestre à 372 790. C'est une baisse de 6,3% sur le trimestre et de 10,1% sur un an. Concernant les départements, moins 5,7% dans la Loire et l'Ain, moins 5,7% dans le Rhône. Sur un an, la baisse sur le Rhône est de 9,5%. Les élections législatives des 12 et 19 juin 2022, 5 maires LR de la métropole sont dans les starting blocks. Le chef de file des LR sur le département, maire Drieu-la-Pape, Alexandre Vincendet, sera candidat sur la 7e circonscription. Philippe Cochette entra de reconquérir son siège perdu il y a 4 ans sur la 5e. Sur la 12e, c'est le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Morauge, qui partira en 2022 pour tenter de décrocher un siège à l'Assemblée nationale. Pascal Blache, le maire du 6e, sera candidat dans la 4e circonscription. Sur la 13e, Gilles Gascon a lui aussi été retenu par la commission d'investiture. Anne Prost et Béatrice de Montille, élues d'opposition dans les 5e et 3e arrondissements, seront candidates sur les 1er et 3e circos. Myriam Fogel, j'ai dit pour la 2e. Sophie Cruz, conseillère régionale, est investie sur la 10e circonscription. Réjeanne Cloupet pour la 14e. Enfin, sur la 6e circonscription, celle de Villeurbanne, aucun candidat n'est pour l'instant investi. Un important incendie a touché mardi la résidence sociale de la Fondation Aralis à Vénissieux. Le bâtiment a été partiellement rouvert hier pour permettre aux résidents de récupérer des affaires personnelles. Une réouverture du site est espérée dans les prochains jours, mis à part pour les logements les plus dégradés. Des solutions de repli doivent être trouvées en attendant. Pour soutenir une trentaine de familles dont les logements ont été partiellement touchés par les flammes et qui ont tout perdu, une cagnotte solidaire en ligne a été ouverte sur Litchi par la Fondation Aralis.
Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Mardi, les anciens footballeurs de l'OL, Sonny Anderson et Sidney Govou, ont rechaussé les crampons pour la bonne cause. Ils ont donné un peu de leur temps à des personnes en situation précaire, accompagnées par l'association Habitat et Humanisme. Le chef lyonnais Grégory Cuilleron les a aussi accompagnés pour cette heure solidaire. Et hier soir, c'est le slammeur Guylain N qui a joué avec les mots à l'escale solidaire du 3e arrondissement, rue du Guéclin. Nous l'avons rencontré à cette occasion, Guylain N.
Avec Rémi, ça fait déjà 3 ans qu'on se dit que dans notre programmation annuelle, on prévoit 2-3 concerts solidaires, donc des concerts qu'on offre. Et depuis 3 ans, on a fait pour pas mal d'associations lyonnaises et d'ailleurs de la région. Le rôle des artistes, un des rôles, c'est de créer du commun, c'est de créer du lien. Le fait que 500, 1000, 10 000 personnes dans une fosse se retrouvent et sont émues par un artiste, c'est clairement créer du commun, du lien. Et donc là, c'est ce qu'ils font aussi. Donc on est complètement quelque part dans les mêmes missions. J'essaie de donner en tout cas le même concert, d'être la même personne, d'offrir le même spectacle et de m'adapter au lieu, bien sûr. Je suis pas au Stade de France, donc je vais pas faire des pogos, c'est clair. Mais j'essaie de donner la même émotion. Pour moi, qu'on soit 10 ou qu'on soit 80 000, ça se respecte, quoi.
L'heure solidaire est une opération menée chaque année au moment du passage à l'heure d'hiver. Une idée d'Habitat et Humanisme pour inciter au bénévolat. Les explications de Christophe Perrin, président d'Habitat et Humanisme Rhône.
On arrive à cette période de l'année où on va changer d'heure pour passer l'heure d'hiver. Dans la nuit du changement, on gagne une heure. Et en fait, on dit aux gens, cette heure que vous en gagnez, qu'est-ce que vous en faites? Et si vous la donniez, Habitat Humanisme, pour soutenir d'une façon ou d'une autre les actions portées par le mouvement en faveur des publics les plus fragiles, les plus précaires. Et donc, cette manifestation, elle peut se faire comme ce qu'on vient de vivre là, avec un artiste qui vient donner une heure de son temps pour les publics qu'on accompagne. Mais elle peut se faire aussi en donnant l'équivalent de ce que l'on gagne en une heure dans une année, et puis aussi on peut la donner en venant découvrir avec des missions de bénévolat découvertes, découvrir un peu ce qui se passe chez Habitat Humanisme et toutes les missions de bénévolat à la limite qu'on propose aux gens. L'idée étant à la fois de gagner un peu en notoriété pour le mouvement, parce qu'on en a besoin bien sûr, et puis aussi de montrer ce qu'on fait concrètement.
Les bénévoles aujourd'hui, il faut aller les chercher, c'est compliqué en ce moment?
Oui et non, enfin c'est toujours compliqué, mais je pense que ce qu'il faut qu'on comprenne, et je pense qu'on l'a compris chez Habitat Humanisme, c'est que les bénévoles ils viennent apporter quelque chose, et sous prétexte qu'ils viennent apporter, il ne faut pas les pressurer en leur demandant d'aller là où ils ne veulent pas aller. Et en fait, l'idée, c'est qu'un bénévole, il doit se nourrir de ce bénévolat autant qu'il nourrit les autres. Et donc, il faut qu'on trouve le bon équilibre entre ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est prêt à faire, ce qu'il sait faire. Et nous, il faut qu'on soit souple, malléable, et qu'on entende ça, et qu'on puisse adapter en fait nos missions à la capacité des bénévoles.
Quelle mission, concrètement, à Habitat Humanisme?
Ça peut être de venir partager et préparer un repas aux escales solidaires. Ça peut être venir faire du bricolage dans les appartements des gens. Ça peut être venir donner un coup de main à l'apprentissage de la langue, présenter des animations culture, des animations ludiques, des animations santé. Enfin, il y a vraiment une carrière très très large de missions bénévolat. L'idée, c'est que chacun doit y trouver sa place, et on s'applique et on est très attaché à ce que les bénévoles s'épanouissent dans leur mission, comme les salariés d'ailleurs, parce qu'on pense qu'un bénévole épanoui, c'est un bon messager pour le mouvement, c'est un bon messager pour Habitat Humanisme, et il en fera venir d'autres, il parlera de nous dans un terme très positif, et on cherche ça aussi.
Christophe Perrin, président d'Habitat et Humanisme Rhône. La vente du restaurant West Express dans le quartier de l'Industrie à Vaise au groupe McDo. Cette vente a fait couler beaucoup d'encre avec de nombreuses critiques. Des riverains ont lancé une pétition pour s'opposer à l'arrivée du géant américain. Le groupe Paul Bocuse est sorti hier de sa réserve pour dévoiler les raisons réelles qui l'ont poussé à cette transaction. Le projet de cession date de 2017. Seule la proposition d'achat de McDo était concrète et sérieuse, selon le groupe Paul Bocuse. Elle a permis le maintien de l'ensemble des collaborateurs de West Express, souligne le groupe dirigé par Jérôme Bocuse. Le groupe qui évoque des pertes importantes pour cette enseigne. La pétition lancée pour réclamer l'abandon de ce projet et la création d'une halle des producteurs locaux à sa place a déjà recueilli plus de 20 000 signatures. L'ouverture du fast-food est toujours prévue pour le mois de novembre. Après Paris en 2019, le food truck Maison Lost repart sur les routes de France et fait étape à Lyon à partir de ce jeudi et pour 3 jours. Lost est une maison créée en 1866 à Saint-Symphorien-sur-Coise dans les Monts du Lyonnais par le charcutier Pierre Lost. L'entreprise avait reçu dans les années 90 le prix de l'excellence européenne pour sa volonté de préserver le terroir. Aujourd'hui, elle compte plus de 8000 bouchers, charcutiers et traiteurs parmi ses clients. Lost repart à la conquête du consommateur avec un food truck à ses couleurs, un mâchon itinérant durant lequel les Lyonnais pourront déguster des produits gratuitement. Ce jeudi, chez Oscar, au Puce du Canal, de midi à 15h, pour une dégustation de jambon et saucisson sec. À la terrasse du Port Rambeau à Confluence, pour une animation œnologique en fin de journée. Vendredi, ce sera à la Commune à Gerland, et notamment le soir, pour une raclette partie. Enfin samedi, direction la place du Cloître à Fourvière, pour le food truck Lost. Tout le programme sur la page Facebook Maison Lost.
Lyon demain ? Histoire lyonnaise.
Ce serait le plus ancien groupe lyonnais encore en activité. Voyage de Noz fait son grand retour avec un nouvel album intitulé Il semblerait que l'amour fût.
Dans la chanson que je t'avais laissée et que tu n'as même pas écoutée, il semblerait que l'amour fût.
Nouvel album et concert programmé ce vendredi au Radiant Bellevue à Caluire. Rencontre avec celui qui a créé le groupe en 1985, Stéphane Pétrier. Il en est toujours le chanteur. Il revient sur l'histoire de ce groupe mythique à Lyon.
C'est une histoire assez classique de copains à l'école. J'avais mon meilleur pote qui jouait du piano. Moi, ça faisait depuis que j'avais 12 ans, depuis que j'avais mes premiers disques, que j'avais envie de monter un groupe et d'écrire des choses. J'avais mon voisin dans mon immeuble qui j'entendais jouer de la batterie tous les jours. Puis un jour, je suis allé sonné à sa porte et puis je lui ai proposé de jouer avec nous. Et ça a commencé comme ça, vraiment une histoire de potes très très classique. Après, ça démarre assez vite parce qu'on est dans une époque justement où il y a beaucoup d'effervescence et où quand tu es un petit groupe d'ados qui commence à faire quelques chansons, bah, tu peux te retrouver avec tout d'un coup plusieurs centaines de personnes dans une salle qui viennent t'écouter alors qu'ils connaissent pas forcément tes chansons. Ça, c'était particulier à cette époque. Je pense pas que ça soit possible aujourd'hui.
Combien d'albums depuis ?
10 albums studio et puis deux live.
Et le dernier qui s'intitule donc Il semblerait que l'amour fût. Pourquoi ce titre ? Pourquoi cette thématique de l'amour en 2021 ?
Ah, alors bizarrement, l'amour, c'est un truc dont on avait souvent parlé, mais jamais en l'assumant comme ça, en utilisant ce mot amour, qui était presque un peu comme un gros mot. Et là, j'avais envie d'y aller vraiment. Quant au thème global, je crois qu'on vit une époque vraiment compliquée. Le monde part un peu en couille. Et dans ce monde qui part en couille, le seul truc qui reste auquel on peut se raccrocher un peu, c'est, j'avais l'impression que c'était l'amour. Et l'idée de départ de cet album, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passerait si même ça, même l'amour, on nous le prenait et on nous l'interdisait. Donc c'est une sorte de dystopie, de fiction sur un monde où l'amour aurait été interdit. Comment on réagirait, comment on résisterait ou pas à cette situation.
La musique, Voyage de Noz en particulier, a un rôle à jouer dans cette société d'aujourd'hui.
Oui, je crois qu'avec l'amour, l'autre truc qui permet peut-être de résister, c'est l'art. Ouais, j'ai l'impression que l'art en général et la musique font du bien à pas mal de gens. C'est en tout cas l'impression qu'on a déjà nous quand on joue et puis quand on voit les regards des gens en concert. C'est important de s'accrocher à ça, même si là aussi économiquement c'est compliqué.
La pandémie, le confinement, ça vous a inspiré justement dans l'écriture de ce dernier album ?
Oui, bien sûr. L'album commence avec une petite intro qui met dans l'ambiance où il y a une sorte de virus qui traîne et évidemment que la pandémie a imprégné complètement l'écriture de cet album.
L'album, vous l'avez enregistré non pas en studio mais dans une grande maison, d'après ce que j'ai compris.
Ouais, on avait envie un peu de s'échapper du côté studio et puis horaire de bureau. Et moi, depuis très très longtemps, j'avais envie d'aller faire ça, de faire un album à la campagne. On a la chance de retaper une maison en Bourgogne. Et donc, on est allé s'installer pendant l'été là-bas. Et puis, c'était une façon d'enregistrer de façon différente, en mettant des micros un peu partout avec notre ingénieur du son, d'essayer des choses. Et puis surtout, au-delà de ça, de passer beaucoup de temps ensemble. Pas seulement musical, mais de petits déjeuners, de passer des soirées, de boire des canons et d'échanger. Ça nous a permis à certains moments de tiens, j'ai une idée, on prend une guitare, on essaye un truc. Des choses qu'on n'aurait jamais fait si on avait été dans un studio classique.
Donc même au bout de 35 ans, on peut encore innover dans la musique ?
On peut en tout cas prendre du plaisir. Moi, j'ai prétentieusement l'impression que nos derniers albums sont meilleurs que les premiers, qu'on a toujours des choses à dire, qu'on s'amuse peut-être même plus qu'au début. Il y a moins d'enjeux de réussite. On est là vraiment pour essayer de faire les choses le mieux possible et de donner quelque chose aux gens, mais sans se soucier de savoir si on va en vendre 1000 ou 10 000. C'est plus vraiment ça l'important et ça libère.
Vous avez traversé les décennies, hein, 3-4 décennies. Le public, il a vieilli avec vous ou est-ce que vous avez réussi quand même à capter des jeunes aujourd'hui ? Qui vient à vos concerts et qui achète vos albums ?
Il y a un peu de tout. Il y a les vieux de la vieille, ceux qui sont là depuis le début. Il y en a un certain nombre. Et il y a parfois les enfants des vieux de la vieille, une nouvelle génération qui ont été biberonnés au Voyage de Noz et qui sont là. Chaque album, parce qu'on a fait des albums assez différents, surtout à partir de 2000, et chaque album a rapporté un nouveau public. Il y a vraiment des strates d'âge comme ça. Donc il y a vraiment, dans nos concerts, il y a vraiment de tout. Il y a des 20 ans, des 15 ans, même moins parfois. Et puis il y a des cheveux blancs. C'est assez sympa. J'aime bien ce mélange.
C'est plus difficile aujourd'hui, Voyage de Noz, qu'au tout début, ou c'est pareil. Les moyens de distribution, évidemment, ont changé. À l'époque, on parlait encore du vinyle, du CD, des plateformes. Et puis aujourd'hui, on revient finalement au vinyle. On a l'impression que c'est un petit peu un éternel recommencement. Qu'est-ce qui est le plus simple ? C'est aujourd'hui ou c'était les années 80 ?
Tout est différent. Il y a des choses beaucoup plus simples aujourd'hui. Enregistrer aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Ça coûte moins cher d'enregistrer aujourd'hui. Dans les années 90, enregistrer un album, il fallait aller dans un gros studio. Ça coûtait énormément d'argent. Aujourd'hui, on peut enregistrer avec son logiciel dans sa cuisine et ça peut être vachement bien. Ça, c'est vraiment un point positif. Ce qui est moins positif, c'est cette impression d'être un peu noyé dans une multitude de médias, de supports. C'est plus compliqué de se faire entendre aujourd'hui que dans les années 90 où des groupes, il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est diffuser son album, c'est plus compliqué. Alors, bien sûr, il y a le net. Donc, on s'accroche au net. Et puis aussi, oui, on refait des vinyles parce que c'est la mode de refaire des vinyles et que c'est sympa. Mais les vinyles, t'en vends pas beaucoup. C'est pas ça qui relance la machine.
Ce qui fait vivre un groupe aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la scène ?
C'est la scène et bizarrement, c'est les produits dérivés. Tu gagnes plus en vendant des t-shirts, des affiches ou des trucs comme ça que des disques.
Alors, il y a quand même des concerts. Le concert donc de vendredi, c'est au Radio. L'album, je crois, est un album, c'est raconte une histoire. Ça veut dire que tous les morceaux, on va les entendre sur scène, dans l'ordre, où il y a quand même un retour un petit peu des anciens titres, de l'âge d'or de Wesh de Noz.
En ce moment, on fait vraiment le nouvel album. Donc, la première partie du concert raconte cet album-là, donc en intégrale. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a des gens qui viennent aussi parce qu'ils aiment des vieux morceaux. Donc, il y aura quelques vieilles choses en rappel, bien sûr.
Stéphane Pétrier, le leader du groupe Voyage de Noz, concert vendredi soir au Radio Bellevue. Un mot de sport en basket, en Euroleague, l'ASVEL s'offre un nouvel exploit face au CSKA Moscou en s'imposant 70-68. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une dernière édition cette semaine.